Lorsque vous écoutez les informations, on est à vite fait de classifier les gens. Il y a les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges. Il y a les petits, les grands, les maigres, les gros. Tout le monde est classifié, on met dans une boîte. Mais il y a une classification qu'on n'entend jamais. C'est ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux qui n'y croient pas. Et il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui cherchent et qui ne sont pas encore décidés à trouver et à vraiment marcher dans les pas du Seigneur. Et vous savez qu'il y a deux auteurs que je vous connaissez maintenant bien par cœur. Il y a deux auteurs que j'aime beaucoup, c'est Søren Kierkegaard, qui est un philosophe du 19e siècle, et puis un nouveau, enfin si on peut l'appeler comme ça, un nouveau, parce qu'il est très âgé, c'est Jean d'Ormesson. Et il a écrit un nouveau livre qui s'appelle Le Guide des Égarés. Son nouveau bouquin s'appelle Le Guide des Égarés, et je l'ai lu avec gourmandise, parce qu'il écrit très bien. Et on voit dans sa façon de penser, lorsque vous lisez ses premiers livres, où Dieu est vraiment assez loin, et plus, peut-être c'est l'âge qui fait ça, car il a plus de 80 ans, et Dieu devient quelque chose, pratiquement dans tous ses livres, qui est la substantifique moelle de ses bouquins. Il y a quelques années, il avait écrit, ce fameux Jean d'Ormesson, « J'espère qu'il y a, après la mort, quelque chose dont je ne sais rien. J'espère qu'il y a, hors du temps, une puissance que par approximation et pour plus de simplicité, nous pouvons appeler Dieu. » Ça, c'était il y a quelques années qu'il a écrit ça. Et il avait écrit aussi, dans ce livre, donc le Guide des Égarés, au tout début du livre, il dit « Nous ne savons ni pourquoi nous sommes nés, ni ce que nous devenons après la mort. Nous sommes tous des égarés. » Alors je me suis dit, ah, il est en train de régresser là. Mais en fait, il exprime une pensée qui finalement est l'idée de beaucoup de personnes, d'être des égarés. Et je me penchais sur un personnage qui aurait pu faire partie de ces égarés, c'est notre ami Job. Regarde, écoutez ce qu'il dit alors qu'il est vraiment dans la souffrance. Hein. Vous vous souvenez des calamités qui sont tombées sur Job, hein. Et il y en avait une qui devait être terrible, c'est cette maladie de peau, hein, qui était plein de furoncles, de plaies, et il était là sur son tas de fumier. Vous imaginez dans quel état il devait être? Et il dit, écoutez bien ces paroles, et ça c'est au chapitre 19, au verset 25 et 26, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Et que le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, mon corps sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Alors, Job n'espérait pas, il savait que son libérateur était vivant dans le ciel. Il le savait. Souvent, Richard nous dit qu'il n'est pas un croyant, mais qu'il est un sachant. Bien, Job, lui, était un sachant. Il savait que son Rédempteur était vivant dans le ciel, sans connaître son nom, car Job n'avait pas eu la révélation de ce que nous savons. Il avait entrevu que Jésus serait le grand vainqueur, le sauveur de tous ceux qui croient en lui. Et Job, vous savez, avait cette douloureuse maladie de peau, mais il pouvait dire « Après ma peau, tout ceci sera détruit. » Et il faisait allusion à la mort de son corps, mais il ajoute « De ma chair, je verrai Dieu. » Il avait cette espérance dans son cœur. « Mes yeux le verront. » Pour lui, la résurrection était une réalité. Il ne resterait pas dans cet état de souffrance physique. Mais là, la résurrection était pour lui une réalité physique et qui l'amènerait un jour dans la présence de Dieu. Voilà ce qu'espérait Job. Alors, un homme, même M. Jean d'Ormesson, fut-il philosophe, ne peut pas comprendre ce qui se passe après la mort. Et il le dit. Par son raisonnement, il peut admettre l'existence d'un Dieu, mais il reste toujours sur des suppositions concernant l'au-delà. Nous savons que notre Rédempteur est vivant. Et nous savons, pourquoi nous savons ça? Parce que nous savons que Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est vivant, éternellement vivant. Et il donne la vie éternelle à ceux qui se confient en lui. Nous avons un Dieu qui nous donne des promesses sûres. En 2 Samuel, chapitre 22, verset 3, « Dieu est mon rocher, je me confierai en lui. » Dieu reste le fondement solide sur lequel nous, les croyants, eh bien, nous pouvons nous appuyer. Même si tout vacille autour de nous, le trône de Dieu dans les cieux est inébranlable. Même si tout vacille autour de nous. Et ça arrive. Vous savez, l'équilibre, on est parfois, nous, en tant qu'humains, en équilibre instable. Parce que toutes les circonstances peuvent nous casser et nous mettre dans une telle tristesse que tout vacille autour de nous. Mais Dieu est toujours là. Quiconque, et c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7, verset 24, quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, le rocher. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens, de cette sécurité que Dieu nous donne? Notre vie de chrétien fidèle à Jésus doit refléter cette certitude que Jésus nous réserve une place près de lui, dans un bonheur parfait. Ça, c'est quelque chose, c'est une promesse que Dieu nous donne. Et nous devons l'avoir chevillée dans nos cœurs, dans nos pensées et dans notre âme. Alors, est-ce que nous sommes des diamants ou du charbon? Alors vous allez me dire, pourquoi il parle de ça? Ben, je vais vous expliquer, vous le savez sûrement déjà, pourquoi est-ce que les diamants font partie des plus belles pierres précieuses? Parce que déjà, elles sont rares. Elles sont rares, et puis à cause de leur éclat. À cause de leur éclat et de leur scintillement. Je ne sais pas si vous avez vu des diamants, hein, c'est très joli, hein, ça reflète toute la lumière. Et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel peuvent se voir dans leurs reflets. Si vous prenez un morceau de charbon, je sais qu'on ne chauffe plus beaucoup au charbon, mais si vous prenez un morceau de coque ou un morceau de charbon, vous pouvez mettre de la lumière dessus, ça ne va rien faire du tout. Vous faites ça sur un diamant, ça va refléter de la lumière. Il y a le fait aussi que le diamant est quelque chose de très dur. Hein. C'est ce qu'on sert pour couper le verre, hein, pour couper les choses. Et d'ailleurs, c'est une méthode pour mesurer la dureté de quelque chose. On le compare au diamant. Donc le diamant est vraiment quelque chose de spécial. Et pourtant, la composition chimique du charbon et du diamant est exactement la même. Autant de carbone, hein, ce sont tous les deux des produits carbonés. Vous cassez du diamant si vous arrivez à le faire, vous cassez du charbon, c'est exactement le même nombre de carbone. La seule différence, c'est qu'ils ne sont pas organisés de la même façon. Vous vous rendez compte? Simplement parce que la géométrie atomique du diamant n'est pas la même que celle du charbon. Alors vous me direz, bah, c'est impeccable, c'est exactement la même composition chimique. Alors, évidemment, si à votre amoureuse ou à votre amoureux vous offrez une bague sertie avec un charbon, je ne sais pas si ça va passer. Et pourtant, vous pourrez tenter d'expliquer que c'est la même composition chimique. Je ne sais pas si ça va passer. Ça vous coûtera peut-être moins cher, sûrement même, mais ça ne sûrement pas ça va passer. Alors, quelle est la différence vraiment entre le charbon et le diamant? C'est tout simplement que le charbon, lui, quand vous éclairez dessus, il absorbe la lumière et il ne la redonne pas. Le diamant, lui, quand vous l'éclairez, scintille et renvoie la lumière. Elle passe même à travers et c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes et nous savons ce que Dieu nous promet. Alors nous avons deux façons de faire les choses. Nous pouvons être un charbon, c'est-à-dire nous allons absorber la pensée et toutes les promesses que Dieu nous donne, ou bien nous pouvons être comme des diamants et nous pouvons refléter la pensée que ce que Dieu nous donne. Et il y a des exemples extraordinaires. Vous savez, avec Moïse, quand il va parler à Dieu, qu'est-ce qui se passait? Écoutez ça en Exode, chapitre 34, verset 22. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec Dieu. Par la parole de notre Seigneur, Dieu nous parle et nous devons refléter nos certitudes. Nous devons nous laisser traverser par les promesses de Dieu, par son amour et par la lumière de Jésus. Alors, à ce moment-là, nous allons pouvoir refléter ses caractères dans notre vie et nous ne serons plus, comme le citait Jean d'Ormesson, des égarés. Nous n'allons plus être des égarés. J'espère que vous tous et toutes qui êtes là n'êtes pas des égarés, perdus dans cette société. Alors, vraiment, nous pourrons vraiment refléter ces caractères dans notre vie. Nous ne serons plus, effectivement, des égarés qui ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont. Et l'intimité quotidienne avec notre Sauveur pourra, souvent, sans que nous en ayons conscience, eh bien, faire scintiller comme le diamant notre espérance, notre joie, notre paix et notre amour. On voit ça en Éphésiens, chapitre 5, versets 8 à 10. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Nous sommes des diamants. Alors des fois, il faut, vous savez, même le diamant, il faut le nettoyer un petit peu, pour qu'il n'y ait pas de saleté qui s'accroche dessus. Alors, à la fin de son bouquin, Jean d'Ormesson, dans le Guide des égarés, dit ceci, et c'est vraiment on voit qu'il a vraiment changé d'avis, il dit, « Ceux qui croient en Dieu ont beaucoup de chance. Leur vie devient une lumière et une fête. Tout leur est gratitude et admiration. Leur bonheur sont heureux parce qu'ils annoncent un autre bonheur plus sûr que tous les autres. » Voilà notre responsabilité. Nous avons reçu un bonheur et des promesses sûres de Dieu. Qu'en faisons-nous? Quelle influence allez-vous avoir sur ceux qui vous entourent? Est-ce que vous allez être des diamants ou est-ce que vous allez être des charbons? Croire aux promesses de Dieu, à son salut, c'est recevoir le message de sa parole et entendre cela de façon consciente et personnelle. Entendre cet appel de Dieu, Dieu a parlé, je le crois, et il me donne une vie et une vocation nouvelle. Et le Seigneur nous dit et nous promet que nous lui appartenons. On voit ça en Ésaïe, chapitre 43, verset 1. « Ne crains pas, ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom et tu es à moi. » Comme j'aime ce verset, « Tu es à moi. » Nous appartenons au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a saisis, comme dit l'apôtre Paul, et qui nous a pris et qui nous a emmenés vers lui. À nous, en tant que chrétiens, en tant que personnes qui croient aux promesses de Jésus de ne pas être déségaré, mais de savoir que Jésus nous attend dans le bonheur le plus parfait. Amen.